Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, bienvenue, je suis en pleine forme et j'espère que c'est contagieux. Francis Laloupo, bonjour.
Bonjour Liliane, heureux de vous savoir en forme. Bonjour aux auditeurs et auditrices et à toute l'équipe de BBC Afrique à Dakar.
Mais sur mon écran ici, je peux m'apercevoir que vous aussi, c'est la grande forme. Je le vois.
Vous avez une bonne vue.
Voilà, tant mieux, je vous confirme. La classe politique et les Maliens se préparent pour la présidentielle du 29 juillet prochain. Une vingtaine de personnes ont déjà exprimé leur intention de se porter candidat à ce scrutin. Parmi elles, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. La distribution des cartes d'électeurs dites sécurisées a commencé cette semaine. Cartes électorales ultra sécurisées peut-être, mais qu'en sera-t-il du déroulement même des élections? Débat à suivre. Quelle solution pour mettre fin aux violences qui s'accentuent dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Elles sont plongées dans une grave crise depuis 2016. De sources officielles, 81 militaires et policiers ainsi que plus d'une centaine de civils ont été tués au cours de ces 12 derniers mois. Des centaines d'écoles ont été brûlées et de milliers de personnes déplacées. Pour faire face à cette situation, le gouvernement camerounais a rendu public cette semaine un plan d'urgence pour les deux régions. Qui gagne à faire la paix et jusqu'où ira le réchauffement entre Addis Abeba et Asmara? L'Éthiopie a pris l'initiative de tendre la main à son ennemi de voisin, l'Érythrée, en reconnaissant la frontière entre les deux pays, objet de tensions depuis plusieurs années. En réponse, le président érythréen Isaias Afewerki a annoncé mercredi qu'il dépêchera en Éthiopie une délégation pour discuter d'une paix avec son voisin. Comment expliquer la démarche d'Addis Abeba et pourquoi maintenant? Le débat, c'est à suivre, mais d'abord Francis, la présentation du plateau avec vous.
Oui, Liliane, avec nous, notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Bamako, le docteur Abdoulaye Sall, président du Cercle de réflexion et d'information de la consolidation de la démocratie au Mali, en sigle CRI 2002. Docteur Abdoulaye Sall, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et notre confrère invité dans cette édition, au téléphone depuis Yaoundé, Christophe Bobby Okono, directeur de la publication de l'hebdomadaire Kalara. Bonjour, Christophe.
Bonjour aux auditeurs de BBC et d'Africa numéro 1.
Merci beaucoup. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, le docteur Abdoulaye Sall, socio-économiste. Vous avez obtenu en 1977 un diplôme en lettres de l'École normale supérieure de Bamako, puis un DEA en économie et droit du développement de l'Université de Nice et un doctorat en droit du développement. Directeur général de l'Office des produits agricoles au Mali à partir de 1988, vous serez ensuite nommé ministre des relations avec les institutions sous le mandat du président Amadou Toumani Touré. Vous présidez actuellement le Cercle de réflexion et d'information de la consolidation de la démocratie au Mali, un organisme dédié, comme le dit sa dénomination, à la consolidation de la démocratie, à l'ancrage de la culture et des bonnes pratiques démocratiques et sociales. Et vous œuvrez d'ailleurs actuellement au développement des initiatives locales et à la réconciliation nationale au Mali. Drassal, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. À vous Liliane à Dakar.
Merci Francis. Ancien ministre opposant et aussi un humoriste, Habib Ndembele, ont exprimé leur intention de se porter candidat à la présidentielle du mois prochain au Mali. Leur objectif est de battre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Ils sont déjà une vingtaine de candidats déclarés et la liste pourrait d'ailleurs s'allonger. L'une des batailles qu'il faut gagner pour le bon déroulement de ce scrutin, c'est celle des cartes électorales qui doivent être distribuées à tous les électeurs. Et il semble que tout va bien, même si pour l'instant, cela peut paraître un peu prématuré de dire que tout va bien. En tout cas, l'opération de distribution a commencé jeudi et devrait se poursuivre. C'était plutôt mercredi et devrait se poursuivre jusqu'au 27 juillet prochain. Et les autorités assurent que les cartes électorales sont sécurisées. On va écouter Baba Aman Maïga, secrétaire général du ministère malien de l'administration territoriale, au micro BBC Afrique de Alou Diawara à Bamako.
Et ceux qui auront cette carte pourront se rassurer que c'est une carte qu'on ne pourra pas falsifier, qu'on ne pourra pas reproduire, parce que simplement elle contient des éléments spécifiques. C'est une carte qui contient aussi des données personnelles. Ça veut dire qu'on ne peut pas remettre à n'importe qui. La loi protège de nos jours les données personnelles. La carte contient le numéro NINA de l'intéressé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'a pas une carte NINA ne pourra pas avoir une carte de l'écart biométrique. en haut et à droite, vous avez le code QR. Ce code QR comprend des éléments alphanumériques et des éléments biométriques. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Il faut un lecteur spécial pour cela. En plus, la photo, qui est une photo numérique, donc précisons bien, pourquoi nous disons que la carte de lecteur, elle est biométrique? Parce que vous avez une photo numérisée. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple photo telle qu'on est en train de prendre tout de suite. Et en bas de la photo, vous avez le code barre. Le code barre aussi, il faudrait nécessairement un lecteur pour connaître. C'est pour vous dire qu'au-delà du simple papier que nous vous présentons, le lecteur aura en ses mains le premier élément de son pouvoir de suffrage. Parce que le jour où il va exercer son vote, c'est à partir du bulletin. Et nul ne sera admis dans un bureau de vote sans être muni au préalable de cette carte d'électeur biométrique.
Voilà, c'était les assurances du secrétaire général du ministère malien de l'administration du territoire. Docteur Abdoulaye Sall, est-ce que il faut croire que les nouvelles cartes d'électeur sont inviolables et que peut-être on ne devrait pas assister à une polémique de la classe politique sur les cartes d'électeur?
Bon, je commencerai d'abord par vous remercier d'avoir songé à m'appeler pour qu'on puisse débattre de cette problématique de l'élection au Mali. Bon, l'existence des cartes d'électeurs, leur non-falsification, c'est des volets extrêmement importants dans un processus électoral, comme je viens de vous le dire. L'élection, c'est à la fois un processus et des procédures. Et que le ministère de l'administration territoriale n'est pas le seul acteur pour que ces cartes qui viennent d'être élaborées puissent être d'envergure, de hauteur, à ce que le Mali puisse organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant que ces quatre ne soient établies, il y a eu une entente entre les partis politiques du Mali, l'opposition et la majorité, pour opter pour ces quatre électeurs. Et comme vient de le signaler tout de suite le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, je pense que la partie malienne en droit gouvernemental a tiré tous les enseignements, toutes les leçons des expériences ou des erreurs passées en République du Mali. Mais il y a un deuxième acteur important. Vous avez beau avoir les meilleures cartes d'électeurs du monde, mais il faut que le fichier électoral ne soit pas contesté. Mm-hmm. Et ça, c'est la Direction générale des élections. Je pense que ce fichier électoral aussi a été audité par l'OIF, qui a validé et donné quitus pour dire que c'est un fichier valable pour qu'on puisse tenir des élections. Et ensuite, il y a un troisième acteur extrêmement important, c'est la Commission électorale nationale indépendante, qui a ses démembrements dans tous les départements, dans toutes les communes du Mali, qui en réalité constitue, si je peux le dire, le commissaire au gouvernement de la bonne tenue des élections. Parce qu'elle est là, elle est composée non seulement des représentants des partis politiques, mais des représentants de la société civile également, et qui sont là pour veiller pour que les choses se passent normalement. Ça veut dire que si ces trois acteurs majeurs jouent correctement leur rôle, n'est-ce pas, continuent dans cette dynamique, je peux dire que les cartes sont matériellement sécurisées. Je peux dire également que les cartes sont, en tant que garant, l'administration territoriale en tant que garante de la bonne tenue des élections, là aussi ça peut avoir des actions. Mais il y a un quatrième acteur important qu'on oublie généralement.
Rapidement, s'il vous plaît. Oui.
Vous comprenez? Et dans ce domaine également, il faut noter qu'il y a plein de projets qui sont en cours, il y a des associations qui sont en train de se créer pour passer à la phase de la sensibilisation, de l'information et de la mobilisation sociale des populations par rapport à la bonne tenue de cette élection. Donc, autrement dit, pour vous dire que l'élection n'est qu'un élément du processus démocratique. C'est pourquoi on dit souvent que la démocratie a deux enfants, c'est les partis politiques et les élections. Les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage, qui doivent également mobiliser et former leurs militants, qui doivent aussi participer aux élections de façon transparente, et il y a également l'encadrement de leur suivi.
D'accord, merci beaucoup. Donc vous êtes en train de nous dire, docteur Sall, que tout va bien côté carte d'électeur, il n'y aurait pas de problème aussi au niveau des inscriptions et que peut-être la seule équation à résoudre, c'est l'équation sécuritaire dont nous parlerons au cours de l'émission. Francis ?
Oui, docteur Sall, est-ce que la livraison de cartes sécurisées, telles que vous l'avez décrit il y a quelques instants, suffit à garantir la transparence d'une élection ?
Oui, c'est pourquoi je vous disais que on a aussi un acteur essentiel, c'est le citoyen. Mmh. Parce que si vous prenez même le code électoral du Mali, oui. Il est bien stipulé dans l'article 2 que l'élection est le choix librement exercé
mais,
par le peuple.
Mais une fois que le citoyen a voté, est-ce que une fois qu'il a voté, est-ce que la garantie est complètement acquise d'avoir au bout du processus la vérité des urnes?
Le 29 juillet, c'est le premier tour. Mmh. Vous comprenez? Et il y a un avant 29 juillet. Et c'est pendant cette période qu'il faudrait passer à des campagnes de sensibilisation, d'information et de mobilisation. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, le jour du scrutin, c'est le 29 juillet. Oui. Mais avant le 29 juillet, bien que les cartes soient sécurisées, il faut qu'on puisse mener des campagnes pour faire connaître, n'est-ce pas, les tenants et les aboutissants de ces cartes, mais aussi mobiliser les populations par rapport au retrait de leurs cartes. Vous comprenez?
D'accord.
Si jamais il y a des problèmes qui pouvaient se définir,
là, il s'agit de la mobilisation.
Maintenant, le jour du scrutin aussi.
Oui.
Il y a des organisations de la société civile qui sont là, et même des partenaires internationaux qui sont là pour l'observation des élections.
D'accord.
Ça aussi, c'est un point extrêmement important pour éviter des contestations après les élections.
Pour éviter les fraudes éventuellement.
Voilà.
Oui. Et alors, on le sait, docteur, les élections au Mali depuis les années 90 ont été marquées par un taux de participation particulièrement faible sur le continent. Est-ce que ce n'est pas là, au fond, aujourd'hui, le véritable enjeu, une fois de plus, pour votre pays, lors du prochain scrutin?
Bon, là aussi, il faudrait faire la part des choses. Au Mali, comment on est inscrit sur la liste électorale? L'inscription sur la liste électorale est automatique, alors que dans beaucoup de pays africains, c'est des inscriptions volontaires.
Oui.
Vous comprenez? Vous avez 18 ans, vous êtes automatiquement inscrit sur la carte d'électeur. Alors que dans les autres pays, l'inscription est volontaire. Si vous voulez voter aux élections, vous allez vous faire inscrire. Donc vous voyez, on ne peut pas comparer tous les pays de l'Afrique de la même manière, de cette manière. Donc le taux de participation est faible au Mali parce que l'inscription est volontaire. On a aujourd'hui à peu près 8 500 000 électeurs qui sont inscrits. Peut-être que si l'élection n'était pas automatique, était volontaire, peut-être on aurait 4 millions, 6 millions d'électeurs en réalité. Donc ça aussi, c'est des données dont il faut tenir compte et il faut tirer les enseignements par rapport vraiment à la façon dont on organise, n'est-ce pas, même l'organisation, les élections, pas seulement au Mali, mais dans les pays africains. Je pense que c'est des dossiers qui peuvent être pris en compte par la CEDEAO ou bien même l'Union africaine pour qu'on uniformise même le mode d'inscription dans nos différents pays. On va vous dire, au Mali, ça fait 20%. Parce que l'inscription automatique. On vous dira au Sénégal ou au Burkina, ils ont fait 80% parce que l'inscription est volontaire.
C'est ça.
Peut-être qu'il faudrait d'abord passer au niveau par des organisations sous-régionales, c'est-à-dire le bloc Afrique, des pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale.
C'est ça.
Et avant de parvenir à une harmonisation au niveau du continent.
C'est ça. C'est ce que je vais dire, quoi. C'est-à-dire on compare des choses comparables.
Vous d'accord.
Si les principes, les valeurs, n'est-ce pas, ne sont pas les mêmes, on ne peut pas comparer le taux de participation dans un pays où l'inscription est volontaire au taux de participation dans un autre pays où l'inscription est volontaire. C'est
voilà.
Ce que je veux dire. J'ai dit qu'au Mali, l'inscription est automatique. Et là, ça pose énormément de problèmes. Si les partis politiques ou même les organisations de la société civile ne jouent pas correctement leur rôle de sensibilisation, de formation, d'éducation des militants et des citoyens, mais il y aura énormément de problèmes au moment des élections.
Docteur Sall, encore une question avant peut-être d'aborder l'aspect sur la sécurité de ce processus. Je parlais en début d'émission d'une vingtaine de candidats à déclarer. Un petit calcul me permet de dire qu'il y a environ un candidat pour 900 000 habitants en partant des chiffres de 2016 qui parlent de 18 millions d'habitants au Mali. Comment appréciez-vous ces chiffres et aussi un mot sur la qualité des candidats déclarés jusqu'ici?
Bon, moi, j'ai dit, dans notre pays, on fait également des confusions de concepts à ce niveau. Vous comprenez? Entre un mandat et un pouvoir. Dans un pays démocratique, en démocratie, on dit le pouvoir appartient au peuple. Par le peuple et pour le peuple. On fait des élections pour donner des mandats. Qui donne le mandat? Qui confie ce mandat? C'est le peuple qui compte. Donc, les 20 candidats que vous avez sont à la recherche, à la quête d'un mandat que doit leur confier le peuple du Mali. Donc si vous allez dans cette dynamique, un mandat c'est pour 5 ans. Vous comprenez? Le pouvoir du peuple, c'est, si je peux dire, c'est tout le temps, c'est permanent. Donc si vous voyez l'idée de mandat, on est en train de se battre pour 5 ans, est-ce que l'essentiel, c'est aujourd'hui la tenue d'une élection présidentielle pour un mandat de 5 ans avec des risques. Je dis avec des risques, parce qu'il n'y a pas d'élection où il n'y a pas de risque, avec des risques. Ou faut-il voir que si c'est un mandat, quelle autre alternative nous pouvons envisager, vous comprenez, pour que on voit comment on peut lier toutes ces questions.
Excusez-moi, je cherche toujours où est la réponse à la question que j'ai posée. Peut-être c'est moi qui ne comprend pas bien, mais ma question était par rapport au nombre de candidats déclarés jusqu'ici. Parce que pour l'élection du 11 ou 2013, je pense qu'il y avait 27 candidats, sauf erreur de ma part, mais pour l'instant, on est à une vingtaine de candidats déclarés alors qu'on est encore à plus d'un mois de ce scrutin.
Mais j'ai dit, on a 20 candidats, mais est-ce que vous savez, madame, il y a combien de partis politiques au Mali? Il y a 192 partis politiques.
Mm-hmm.
Peut-on en voir 190 au projet de société?
Mais
tout ça, c'est des questions qu'on devait...
Vous voulez parler des candidatures fantaisistes ou bien des intentions de candidature?
Moi, je ne parle pas de candidatures fantaisistes. Je vous dis seulement, prenez le Mali avec 18 millions d'habitants, 192 partis politiques.
Oui.
Vous comprenez?
Non, mais,
en conclusion,
mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette inflation quand même? Parce que on a quand même affaire à une inflation
de candidature. Cette inflation, ça veut dire que nos partis politiques ne sont pas généralement fondés, je ne peux pas parler des doctrines, mais sur des visions, des programmes, des stratégies qui vont dans le sens d'une conquête et d'un exercice réel de la démocratie pluraliste. Vous comprenez, hein? 20 candidatures.
Déclaré.
Moi, je pense que... Mais il faut se dire aussi qu'on est en train de s'acheminer vers la création d'un certain nombre de pôles. Hein? Oui. Peut-être que d'ici le 29 juillet, ce ne serait pas 20, ce serait peut-être une dizaine.
Mais puisqu'il reste la phase de la validation de ces candidatures.
Voilà, parce qu'il y a la caution à payer,
oui.
Il y a les parrainages à trouver. Et il faut 10 députés, si ce n'est pas 10 députés, c'est 5 conseillers municipaux. Par région, il y a 10 régions du Mali plus le district de Bamako, il y a tous ces problèmes.
D'accord.
Vous comprenez? Et ensuite, au fur et à mesure que nous allons nous approcher de cette échéance, peut-être bien de candidats vont se rendre compte de l'envergure, de l'étendue des efforts à fournir.
Oui.
Peut ramener les uns et les autres certainement à la raison.
En fait, on pourrait vous poser la question autrement, ce serait de savoir pourquoi, comment expliquer que dans une situation aussi compliquée que celle que connaît le Mali, situation sécuritaire essentiellement, qu'une élection présidentielle suscite autant de vocations, quoi.
Oui, c'est pour nous, certains acteurs de la société civile sont déjà montés au créneau pour carrément attirer l'attention des uns et des autres, que c'est sur l'essentiel maintenant qu'il faut se focaliser. Et l'essentiel, ce n'est pas autre chose, c'est le Mali lui-même. Un État, c'est trois éléments constitutifs, un pouvoir politique, une population et un territoire. Ce n'est pas moi de vous dire aujourd'hui que le pouvoir politique est pratiquement divisé. La population connaît énormément de problèmes, aussi bien au centre qu'au nord, et le territoire également.
D'ailleurs, un des candidats déclarés, l'humoriste, disait qu'il est candidat parce que la classe politique a échoué. Et c'est pour cela qu'il pense qu'il faut faire confiance maintenant à d'autres personnes que les politiciens.
Bon, moi, je ne raisonne pas comme ça. Vous comprenez? Je vois souvent, quand on est dans un état, on est en train de faire de la politique. C'est comme si des footballeurs qui sont sur le terrain, vous êtes spectateurs, vous pensez que c'est facile sur le terrain, il faut y descendre. C'est pas un champ facile.
Ouais.
Et le temps également refusé aux politiciens. Moi, je salue tous les politiciens africains de pouvoir s'engager dans la politique dans des conditions aussi difficiles que ça. Donc, on a besoin de tous les Maliens pour faire de la politique. Mais faire de la politique, ce n'est pas seulement être dans les partis politiques.
Merci
même
beaucoup.
Même des associations comme CRI 2002 ou comme les grandes fêtières que nous voyons.
C'est vrai que
de la politique.
C'est vrai que
merci. On va marquer une pause obligatoire. On marque
c'est
une pause
nous,
obligatoire.
Nous commentons le match, hein? En fait. on va marquer une
voilà,
pause.
Voilà, c'est ce que je dis. Bon, il est bon d'être spectateur.
Le débat Africa BBC.
En duplex à Dakar et Paris, le débat BBC Afrique, Africa numéro 1, Paris. Notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Bamako, Dr Abdoulaye Sall, président du Cercle de réflexion et d'information de la consolidation de la démocratie au Mali. Et notre confrère invité dans cette édition depuis Yaoundé, Christophe Bobiokono, directeur de la publication de l'hebdomadaire Kalara, à qui nous allons demander un premier commentaire sur ce contexte préélectoral au Mali, mon cher Christophe Bobiokono.
Oui, je trouve le débat assez intéressant. La problématique est la même
dans tous nos pays. Ce que j'ai écouté me renvoie directement à la réalité camerounaise. Mais le tout petit commentaire que je voudrais faire, c'est par rapport à comment je veux dire ça, au rôle de surveillant qui semble être attribué au peuple malien par rapport à comment je peux dire ça, à la régularité du processus électoral. Je pose la question de savoir comment est-ce que la liste électorale, le fichier électoral est exposé pour que ce peuple malien puisse contrôler que tous ceux qui se retrouvent dans ce fichier-là, d'abord n'ont pas des inscriptions doubles et remplissent les conditions pour pouvoir voter.
Et qu'il n'y a peut-être pas aussi de morts inscrits sur les listes des électorales, comme on en a vu ailleurs. Oui.
Tout à fait.
Voilà. Mais est-ce que vous diriez quand même, on parlait tout à l'heure, Francis évoquait le nombre de candidats en parlant d'inflation de candidature. Est-ce que dans le contexte de crise que connaît le Mali aujourd'hui, on puisse admettre ou dire que c'est une bonne chose d'avoir autant d'intentions ou autant de candidats déclarés?
Je ne sais pas si on devrait poser la question comme ça.
Oui, mais je...
Un instant, docteur Sall, Christophe, allez-y.
Je ne pense pas qu'on devrait poser la question comme ça à partir du moment où on est en démocratie et que tous ceux qui remplissent les conditions doivent pouvoir se présenter. Mmh. Je crois que c'est le système électoral qui doit pouvoir créer les conditions pour qu'il y ait quand même un affinement dans le choix des électeurs. Par exemple, avec un scrutin à deux tours qui peut permettre que...
C'est le cas au Mali, d'ailleurs.
Voilà, seulement les deux principaux candidats, les candidats arrivés en tête au premier tour puissent s'affronter au second tour de l'élection, si l'un d'entre eux n'a pas eu la majorité absolue.
Liliane, je souhaiterais qu'on aborde le volet sécuritaire de ces élections, docteur de la salle. Docteur, alors, il y a deux mois, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation indiquait qu'il fallait se faire à l'idée que certaines localités, une dizaine à peu près, allaient être exclues du vote pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'on ne risque pas d'organiser une fois de plus une élection au forceps, à laquelle tous les électeurs potentiels maliens ne pourront pas participer?
Comme ce fut le cas en 2013.
Bon, moi, ce que je vais vous dire, ce que vous venez de dire, c'est la première fois que j'entends ça. Moi, je n'ai jamais entendu que le ministère de l'administration territoriale ait déclaré qu'il y a des
Il y a deux mois, ça a été évoqué au ministère. Il y a deux mois.
Voilà. Bon, vraiment, je n'ai pas entendu. Mm. Mais comme je suis obligé de vous le dire encore, il s'agit de l'élection présidentielle. Vous-même, vous avez dit ici que le Mali a tenu plein des élections où il y a 20 ou 25% du taux de participation.
C'est ça.
Alors, prenez 25% de 18 millions, ça fait combien? Vous comprenez?
Oui.
Ça veut dire que même si il y a la sécurité totale sur l'ensemble du territoire national,
oui,
c'est pas
oui,
tous les Maliens qui vont aller voter.
Non, mais que les gens ne votent pas parce qu'ils choisissent de ne pas voter, c'est une chose, mais qu'ils ne votent pas parce qu'ils n'ont pas accès au bureau de vote, c'est autre chose. Hein.
Non, mais c'est une personne, une voix, quand même. Il faut le dire.
Oui, mais s'il y a des localités qui sont exclues du vote, le vote ne se ferait pas sur l'étendue de l'ensemble du territoire malien. Cela sanctionne une fois de plus, cela consacre une fois de plus, je dirais, le problème de l'intégrité territoriale au Mali qui n'a toujours pas été résolu.
Mais j'ai dit, je n'ai pas entendu cela. Vous comprenez? Une fois que vous optez pour la construction d'une société...
Alors, je vous pose la question autrement, docteur. Est-ce que, selon vous, le vote aura lieu sur l'ensemble du territoire malien le 29 juillet prochain?
Moi, je pense que je suis pas l'État du Mali.
Vous êtes un observateur, averti.
Voilà, je suis un observateur et un acteur de la société civile.
Mmh. Mmh.
Vous comprenez? Donc cette question, vous auriez dû la poser au secrétaire général du
Selon vous qui êtes sur le terrain, comment vous sentez la situation justement? Est-ce que vous pensez que tous les Maliens auront accès au bureau de vote le 29 juillet prochain sur l'ensemble du territoire malien?
Mais c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est le peuple qui doit déterminer cela.
Non, c'est pas que le peuple. La situation sécuritaire aussi impose sa loi.
Hein?
La situation sécuritaire impose ses lois.
Mais vous constatez qu'en France, je ne sais pas si c'est le cas au Cameroun, mais au Mali, c'est les villes, c'est la capitale qui vote moins que les régions, les départements.
Oui. D'accord.
Ça c'est une réalité.
Non, mais moi, la question, Liliane, excusez-moi, mais je voulais votre commentaire.
Docteur, je voulais votre commentaire
sur l'impact de la situation sécuritaire sur le vote qui aura lieu le 29 juillet prochain, tout simplement.
L'impact d'abord, il est positif. Pourquoi? Vous, par exemple, vous êtes en train de vous intéresser à ce qui se passe au Mali et nous allons être écoutés par des millions
et des millions de Maliens et d'Africains.
C'est ça.
Et qui vont être peut-être un moyen pour pouvoir sensibiliser les gens sur l'importance de ces élections. Deux, un impact significatif. Vous prenez aujourd'hui, la communauté internationale dans son entièreté est au chevet du Mali pour aider le Mali à ce que ces élections puissent se tenir.
D'ailleurs, plus de 9 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour les différentes étapes de ce processus.
Bon, voilà.
Et quatre uniquement pour l'opération de distribution des cartes.
Voilà, donc ça, c'est extrêmement important.
Oui, mais d'accord, mais est-ce que ça ne peut pas être un peu gênant lorsqu'en même temps, on sait que les forces armées maliennes manquent d'équipement selon une partie de la société civile et qu'on dépense autant d'argent pour un scrutin qui risque de ne pas se dérouler sur l'ensemble du territoire?
Madame, je ne souhaite à aucun pays que ce qui est arrivé au Mali en 2012 arrive à un autre pays africain. Et que ce pays puisse se relever en moins d'un an et faire une élection présidentielle, etc. Parce que le Mali est un pays résilient et un peuple résilient. L'essentiel est qu'on ait aujourd'hui des cadres électeurs, que les partis politiques comprennent leur rôle, occupent leur place, et que les citoyens maliens soient engagés pour que cette élection présidentielle puisse se tenir. C'est ce que nous recherchons.
D'accord. On parlait tout à l'heure du taux de participation,
je ne veux pas mesurer ça en termes de milliards de francs CFA, mais en termes de comment faire pour qu'aucun Malien ne meure dans la dynamique de l'organisation, de la bonne organisation de cette élection.
C'est-à-dire que l'élection permet de diminuer le nombre de morts?
Mais s'il n'y a pas d'élection, s'il n'y a pas de pouvoir politique... Mais bonjour,
il y a eu l'élection en 2013, la situation n'a fait qu'empirer.
Oui, mais ça empire comment?
Je veux dire, les violences qui étaient limitées dans le nord du pays sont aujourd'hui présentes dans la partie du centre du Mali, ce qui n'était pas
Madame,
le cas.
Je vous invite à venir au Mali. Vous et moi, nous pouvons aller partout au Mali. Mais c'est les symboles, justement, souvent les symboles de l'État qui sont attaqués.
D'accord.
C'est un autre problème.
Docteur. Donc vous nous assurez que vous êtes en train de nous dire que tout est fin prêt et que...
Non, moi je ne peux pas vous dire tout est vrai. Moi je dis en tant que citoyen, organisation de la société civile, si moi je vais quitter aujourd'hui Bamako pour aller à Kidal, je peux aller à Kidal, je peux aller à Tombouctou, je peux aller n'importe où.
Très bien.
Docteur, juste...
Voilà, mais ce qui est attaqué,
bientôt il va falloir passer au prochain sujet, non, Francis,
juste,
rapidement.
Une question rapide sur vos activités.
Venez, Madame Mireille.
D'accord, Madame, entendu.
Madame, venez, on va aller à Mopti, on va aller à Ténéncou, vous et moi.
À Kidal, dites-vous. Oui, Francis.
À Kidal, vous et moi.
Oui, mais nous sommes deux présentateurs.
La société malienne, c'est-à-dire entre nous, citoyens maliens, il n'y a aucun problème.
D'accord.
Mais en général, quand on se déplace ensemble, en général, docteur.
Voilà.
c'est
je viendrai avec Francis.
Francis,
il nous reste une minute sur le sujet, s'il vous plaît.
Vous comprenez? Les conseils qu'on vous donne, on vous dit souvent, quand vous allez d'une localité à une localité, ne suivez pas les colonnes militaires, par exemple, qui risquent d'être attaquées.
Oui.
D'accord. Ça, on comprend que vous dites que tout va bien au Mali pour l'instant.
Non, je n'ai pas dit que tout va bien, mais j'ai dit que nous, citoyens, nous pouvons vaguer à nos affaires.
Merci.
Francis, je vais juste vous poser une dernière question sur les activités de votre organisme, le CRI 2002, qui a organisé une journée d'engagement.
CRI, je m'en fais qui?
Le CRI 2002.
Oui, CRI 2002.
OK, d'accord.
Bon, c'est CRI, CRI, mais on lit CRI. Allez-y, Francis.
Non, c'est CRI. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de ne pas mettre tout en majuscule.
D'accord.
Le C est majuscule, le reste est en minuscule.
Donc on dit CRI 2002.
Parce que c'est le CRI.
D'accord.
Ah ben, le CRI 2002. Qui a organisé donc une journée d'engagement citoyen, c'était en mai dernier, destinée à susciter une forte implication des autorités traditionnelles et coutumières dans le processus de décision et de construction du pays, je cite le communiqué. Quel peut être, selon vous, le rôle des autorités traditionnelles aujourd'hui dans le processus électoral et aussi dans le processus de restauration de la paix dans le pays?
En 30 secondes, s'il vous plaît.
Oui, c'est pour vous dire que seulement il y a une loi de 2006 qui crée et organise les villages, les fractions et les quartiers en République du Mali. Et trois fonctions sont attribuées aux autorités traditionnelles: veiller à l'application des lois et des règlements, contribuer à la mobilisation des ressources au niveau des collectivités et également contribuer au règlement des conflits, à leur prévention, à leur gestion et à leur non-répétition. Donc nous nous battons pour qu'ils soient plus visibles, et aujourd'hui ils sont visibles parce que les engagements sont pris pour les doter de leurs décisions de nomination. On est en train de les former pour qu'ils puissent jouer ces trois rôles. Vous voyez bien quand il y a eu les événements de 2012 à Gao, à Kidal, à Tombouctou. Mais toute l'administration, tous les représentants de l'État sont venus vers le Sud. qui sont restés. Mais c'est les autorités traditionnelles, les jeunes et les femmes, et qui ont géré les problèmes de gestion locale de ces localités pendant toute l'occupation des trois régions du Nord.
Merci. Mais il faut donc leur faire confiance et les impliquer dans la recherche de solutions.
Les citoyens, il faut mettre les citoyens au cœur des règlements des conflits dans nos pays.
Merci.
Au cœur de la bonne préparation, de la bonne tenue des différentes élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, régionales ou locales.
Merci beaucoup.
Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.
Avec notre grand témoin invité, le docteur Abdoulaye Sall, président du Cercle de réflexion et d'information de la consolidation de la démocratie au Mali, en sigle CRI 2002. Notre confrère invité dans cette édition, au téléphone depuis Yaoundé, Christophe Bobiokono, directeur de la publication de l'hebdomadaire Kalara, édité au Cameroun. Le Cameroun actuellement, justement maintenant, nous allons parler évidemment de la crise anglophone, hein, alors que l'ONG Amnesty International décrit dans un rapport un climat de violence sans précédent dans les régions anglophones du Cameroun, avec de nombreux cas de violation des droits humains commis par les deux parties impliquées dans la crise en cours dans cette partie du Cameroun depuis 2016. Le Premier ministre camerounais, Philemon Yang, a annoncé ce mercredi 20 juin un plan d'urgence en faveur de ces régions du sud-ouest et du nord-ouest. L'occasion pour le Premier ministre de dénoncer les actes de violence commis, selon lui, par, je cite, « des bandes terroristes se réclamant de mouvements sécessionnistes, ainsi que ceux qu'il désigne comme, je cite toujours, des extrémistes de la diaspora et leurs relais locaux qui se sont employés à substituer aux revendications corporatistes un projet sécessionniste ». En toile de fond des dispositions sécuritaires et humanitaires annoncées par le gouvernement. Il y a bien sûr beaucoup d'interrogations sur le rendez-vous de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Première question pour vous, évidemment, Christophe Bobiokono, vous qui êtes sur le terrain. 12,7 milliards hein, qui seraient donc investis dans ce plan d'urgence humanitaire. Est-ce que ce plan d'urgence humanitaire n'est pas finalement, je dirais, un dispositif qui éloigne l'hypothèse du dialogue que certains prônent pour résoudre cette crise ?
Je partage le point de vue de ceux qui pensent que ce plan d'urgence humanitaire vient effectivement éloigner la perspective de dialogue dans la recherche des solutions à la crise que connaissent les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Probablement, si vous avez vu les principaux acteurs de ce plan d'urgence-là, ceux qui seront en contact avec les populations. Vous avez le ministre de l'administration territoriale qui peut être à certains égards, qui peut être considéré à certains égards comme l'un des acteurs de cette crise, étant lui-même
de la région du Nord-Ouest.
Dans la région du Nord-Ouest,
Tangandji.
Un politicien de terrain, celui qui a même organisé le meeting de décembre 2016, qui a entraîné l'explosion qui a débouché sur la situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce meeting était consécutif, il faut bien le souligner, aux revendications corporatistes qui avaient cours depuis quelques mois déjà. Donc, de mon point de vue, c'est bien que le gouvernement ait pensé à assister les populations qui sont en difficulté, qui sont prises entre deux feux. L'armée et l'armée nationale, et puis les bandes terroristes, comme le dit si bien le communiqué du gouvernement, je partage cette terminologie-là, parce qu'on n'est pas sûr que tous les groupes qui opèrent sur le terrain, qui terrorisent les populations sur le terrain, soient eux-mêmes liés, entre eux. Donc on a fait au gouvernement qui a son armée, enfin à l'État du Cameroun qui a son armée, mais à ces groupes qui sont disséminés dans toutes les zones, enfin dans les forêts, dans les montagnes, qui font éruption, à partir du moment où on est en face d'une guerre asymétrique, les terroristes n'ont pas détenu nécessairement, ils ne sont pas reconnaissables dans la rue, mais c'est lorsqu'ils ont frappé qu'on sait qu'ils sont,
là. Vous dites que cela éloigne la perspective de paix, mais il y a aussi une partie de la presse camerounaise, voilà, tout à fait de dialogue, merci Francis, qui estime que le plan d'urgence du gouvernement peut aussi est perçu comme un début de changement d'approche ou un changement de fusil d'épaule de la part de Yaoundé.
Disons que avoir les responsables politiques nationaux ont toujours vanté notre pays comme étant un havre de paix un îlot de paix dans une dans un océan de guerre, puisque à un moment donné, la plupart des pays de la région étaient menés par des conflits internes et le Cameroun échappait à cela. Et donc ça fait très très mal de savoir qu'aujourd'hui il y a des réfugiés camerounais sur le territoire nigérian
voisin.
Il y a des personnes déplacées. Et donc je pense que interne. Je pense que cette situation-là est quand même assez difficile à vivre pour ceux qui se sont proclamés jadis comme des champions de la paix, du fait qu'il n'y avait pas de conflit ouvert. Et c'est tout à fait normal que les populations qui se retrouvent donc en difficulté soient assistées. Mais si vous avez bien lu le document qui a été rendu public par le gouvernement, il ne fait pas un état des lieux, juste de mon point de vue, il ne fait pas un état des lieux honnête, parce qu'il présente une version de la situation qui est la version qu'il arrange. J'ai même vu, et puis je peux en sourire, j'ai vu qu'à un moment donné, on cite Amnesty International, lorsque cette ONG-là, ça tire à boulet rouge sur
le gouvernement.
Actions, oui, voilà, des bases armées.
Les bandes armées.
Rien par rapport. Ne dis rien par rapport à ce qui est reproché
aux forces de sécurité.
Alors, il y a des images assez choquantes qui ont circulé, et notamment à l'aide des réseaux sociaux.
Merci. Francis, si vous me permettez, une autre question
bien sûr.
Christophe, avant de passer la parole au docteur Sall. Les attaques de séparatistes présumées mêlées peut-être même aux bandits armés, comme le soutient parfois le gouvernement, ces attaques visent aussi les ressortissants anglophones. D'ailleurs, deux membres du parti au pouvoir ont été tués dans la région. Est-ce qu'ils ne risquent pas ces actes, Christophe, peut-être de provoquer une guerre entre anglophones modérés et anglophones extrémistes, et peut-être aussi finir même par diluer les réelles revendications des anglophones?
Mais il faut d'abord, je ne pense pas que ce soit correct de penser que tous les anglophones parlent d'une même voix.
Exactement.
Ils sont certainement d'accord sur certains problèmes. La plupart d'entre eux veulent le fédéralisme, c'est clair, mais la plupart d'entre eux ne veulent pas poser le problème tel qu'il a été posé. Je pense, pour ce qui me concerne, que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui est le résultat de la gestion qui a été faite de cette crise. Vous savez, on est parti des mouvements corporatistes et surtout des avocats qui, depuis 2014, j'insiste bien sur l'année 2014, avaient posé le problème des revendications, notamment sur la traduction en anglais d'un certain nombre de textes. Par exemple,
Des textes juridiques, notamment. Mais si vous permettez, on ne va pas refaire, on a eu déjà à parler plusieurs fois du débat, mais ma question était sur le risque de tension entre les personnes d'une même région. Est-ce que ce risque-là est réel? Rapidement, s'il vous plaît.
Les bandes armées agissent, elles agissent aussi sur les populations anglophones. Elles agissent sur les populations qui ne sont pas armées. Tout le monde n'est pas armé dans cette zone-là. Et lorsque les militaires viennent réprimer et qu'ils sont attaqués violemment, qu'ils voient, par exemple, lorsque les militaires voient les camarades qui sont tombés du fait des réprimes, par un moment, la répression peut être au-delà de ce qui serait
disproportionné.
Les populations civiles ne sont pas armées pour faire la guerre. Ce n'est pas possible.
C'était pas ça ma question, mais c'est pas grave, Christophe. On va écouter le docteur Sall, Francis.
Oui, et docteur Abdoulaye Sall, est-ce qu'il n'y a pas un risque, est-ce que ce plan d'urgence annoncé par le gouvernement camerounais se limite à un effet d'annonce? Parce que comment peut-on déployer un plan d'urgence humanitaire dans une situation de quasi-guerre civile?
Bien, bon, vous-même, vous avez parlé du plan d'urgence. Or, le problème qui se pose au nord du Cameroun, ce n'est pas un problème d'urgence, c'est un problème purement structurel. Vous savez, nous sommes en train carrément de traîner avec nous les vieilles casseroles de la guerre qu'il y a eu au moment de la création de l'OIA. N'est-ce pas? L'Afrique des États et l'Afrique des peuples. On a opté pour la création de l'Afrique des États. Ce problème qui se pose au Cameroun, au nord Cameroun, on pense que c'est le problème du seul Cameroun. Alors que les frontières, en réalité, sont aujourd'hui des espaces où vivent des populations qui parlent les mêmes langues, qui ont les mêmes culturels de part et d'autre, que ce soit au Cameroun ou au Nigeria. Vous voyez, on parle maintenant d'anglophones, vous comprenez? Alors que c'est les mêmes peuples, vous allez voir que ça doit être les mêmes groupes ethniques,
les mêmes tribus, les mêmes gens qui mangent, qui ont les mêmes coutumes, etc. Donc c'est pour vous dire que le plan d'urgence peut peut-être atténuer en 30 jours, 3 jours les problèmes, mais il faut prendre, je pense, le taureau par les cornes. Comment penser d'abord nos frontières en espace, au lieu de penser qu'on a des frontières réelles qui sont là, qui d'un côté il y a les Camerounais, de l'autre côté il y a les Tchadiens, de l'autre côté il y a les...
Pour l'instant, le problème n'est pas lié au... Ce n'est pas un litige frontalier, mais c'est qu'une partie...
Oui, madame, comme on dit qu'on n'est on n'est pas bandit, on le devient.
D'accord.
Oui, vous êtes d'accord avec moi?
Je ne sais pas, docteur, je ne participe pas au débat, je n'ai pas d'opinion à donner. Francis, oui, voilà...
Mais vous êtes d'accord avec moi que personne ne naît savant, ingénieur, bandit, djihadiste, mais qu'on le devient? Ça veut dire que l'environnement dans lequel tu évolues, s'il ne répond pas, n'est-ce pas, aux besoins élémentaires dont vous devez bénéficier, vous risquez de devenir bandit, djihadiste, etc., etc. C'est pour vous dire seulement que nous devons travailler pas frontières, mais d'abord espace. Nous devons revisiter la vision qui a prévalu à l'époque en 63, la vision des États, de l'Afrique des États, et aller vers la vision de l'Afrique des peuples.
Merci. J'espère que le gouvernement camerounais et les sécessionnistes présumés qui se battent comprennent votre message. Mais un mot pour terminer. Christophe, est-ce qu'on a les dernières nouvelles du leader sécessionniste arrêté, Ayouk Tabé, estradé du Nigeria? Toujours pas de procès 7 mois après, vous qui êtes chroniqueur judiciaire aussi.
Pas du tout, pas du tout. Et ça pose justement le problème de la gestion de cette crise-là. Parce que mon opinion est qu'on a beaucoup privilégié la solution militaire en mettant même de côté certaines composantes de la société. La justice ne joue pas pleinement son travail. Vous savez, vous avez suivi, je crois, le ministre de la Communication avait annoncé que Ayouk Tabé et ses compagnons étaient entre les mains de la justice. Or, la justice a une manière d'opérer. Lorsque quelqu'un est sous main de justice, il est en contact avec ses avocats, il peut recevoir la visite de ses parents, de ses amis, et ce n'est pas le cas. Il y a de nombreuses personnes. Tout cela fait partie des choses, des ingrédients qui nourrissent la crise et la radicalisent.
Merci beaucoup. On va passer, Francis, directement au sujet Éthiopie. Oui. Érythrée, le réchauffement diplomatique entre les deux pays annonce-t-il la fin d'un conflit frontalier? Asmara et Addis Abeba semblent vouloir enterrer la hache de guerre. Le premier ministre éthiopien a annoncé en début du mois que son pays appliquera un accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée fixant leurs frontières communes. L'accord dit d'Alger a été signé en 2000 justement et avait permis de mettre fin à 2 ans de guerre entre les deux pays. Un conflit justement causé en partie par un désaccord sur le tracé de leurs frontières commune. Et après la fin de la guerre, les tensions étaient dues au fait que l'Érythrée refusait de reconnaître l'attribution par une commission internationale indépendante sur la démarcation de la frontière de la ville symbole de Batmé à l'Érythrée. Addis Abeba a donc accepté, docteur Sall, de respecter cette décision. À quoi est-ce que vous attribuez cet apaisement quand on sait que les gouvernements de Meles Zenawi, de défunt Meles Zenawi et de son successeur Ali Mariam Desalegn se sont toujours opposés à la reconnaissance de ce tracé?
Oui, mais vous savez, ça fait depuis 91, ils sont en train de se battre. Vous comprenez? 91-2018, mais il faut un moment quand même pour qu'on se dise, il faut arrêter ça.
Mais pourquoi maintenant?
C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faut se dire aussi qu'un accord ne résout jamais les conflits. Un accord, c'est comme un placebo. C'est amener les belligérants à se retrouver autour d'une table, à discuter, à faire des réunions ensemble, etc. Et à avoir l'intelligence suffisante, vous comprenez, pour voir au-delà des conflits, moi je dis des conflits personnels, hein, parce que ce n'est pas les peuples ou les populations qui sont en train de se faire la guerre. C'est deux gouvernements qui ne se sont pas entendus pendant 40 ans, 50 ans.
Oui, mais pourquoi à un moment donné, les deux pays décident donc d'enterrer la hache de guerre, notamment l'Éthiopie? Est-ce qu'il y a peut-être un contexte interne ou peut-être sous-régional qui ont poussé l'Éthiopie ou le premier ministre éthiopien à faire cette démarche à l'égard de l'Érythrée?
Mais c'est vrai, c'est ce que je vous disais. J'ai dit qu'il faudrait... C'est pourquoi les conflits, là, moi, je ne parle jamais de frontières, je parle d'espace. Parce que vous voyez les conséquences sur la sous-région là-bas. tout ce qu'on entreprend, on trouve qu'avec la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie, vous comprenez, ça bloque plein de choses. Donc je pense qu'ils ont commencé à avoir la sagesse qu'il faut, parce que quand vous avez les destinées des peuples, tenez compte, n'est-ce pas, des besoins de ces peuples, de la satisfaction de leurs besoins. Dans un contexte de conflit ouvert pendant 40 ans, 50 ans, vous savez combien d'enfants d'éducation, de santé, vous comprenez? Combien de populations vont être déplacées? Vous voyez un peu le dégât que cela peut causer. D'accord. Je pense qu'il faut prier et travailler pour que la sagesse revienne et qu'ils sachent et qu'ils comprennent, tous les dirigeants africains comprennent qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils ont des mandats. Et le pouvoir leur est conféré par nos peuples, et les peuples veulent la tranquillité et la paix.
Merci. Francis.
C'est tout simple.
Oui, docteur, vous avez dû remarquer, hein, quand vous voyagez, que voilà, ce conflit a quand même beaucoup séparé les deux peuples, qui, les Érythréens et les Éthiopiens, ne se parlent pas d'ailleurs, hein, quand ils se trouvent à l'étranger. Hein, je parle de la diaspora, évidemment. Alors, au-delà, hein, d'un possible règlement politique, est-ce que le plus dur ne sera pas finalement de réconcilier les cœurs, comme on dit, hein, ceux des deux peuples?
Mais tout ça, c'est les élites. C'est les élites. Je vous dis, tous les conflits que nous avons dans nos pays, c'est les élites. Et qui sont des minorités. C'est les élites. Ce n'est pas les peuples, les populations elles-mêmes.
Oui, mais les peuples, finalement,
tant qu'on ne va pas travailler sur nos sociétés,
oui.
Vous comprenez? Essayez de voir quelles sont les traditions, les traditions qui ont prévalu pour qu'il y ait la paix dans nos pays. La paix n'est que virtuelle. La paix est virtuelle. C'est une conquête permanente. Personne n'attrape la paix.
Oui.
Mais les guerres, les conflits, on les voit tous les jours. Ça se co-construit. Et pour que cela soit co-construit, les gens qui ont les destinées des pays respectifs, des peuples respectifs, il faut qu'ils aient la grandeur, la sagesse suffisante, vous comprenez, pour enterrer la hache de guerre entre les élites. C'est des guerres entre
Christophe,
des gouvernements, entre des élites, entre des individus. Ce n'est pas des guerres entre des peuples.
En quelques minutes, enfin quelques secondes, Christophe,
oui.
Voilà, l'apaisement qui se prépare, semble-t-il, entre Asmara et Addis Abeba, peut-il peut-être pousser les autorités érythréennes à relâcher un peu de pression sur les populations? Les tensions avec l'Éthiopie servaient pour le régime au pouvoir, ou le président au pouvoir, de prétexte en quelque sorte pour imposer, par exemple, la formation militaire obligatoire à tous les Érythréens? Est-ce qu'on passe un relâchement de pression côté érythréen?
La question est posée.
Oui, oui, oui.
Oui, bah, disons que je ne suis pas un spécialiste de la question érythréenne. La question du conflit érythréen éthiopienne. Mais ce que je pourrais dire, je me situe dans le sillage de l'invité témoin, dans la mesure où tout ce qu'on peut envisager après, par exemple, le démantèlement du système qui existait avant ne peut être que la résultante d'un dialogue. Le dialogue permettant aux parties d'exprimer ce qu'elles veulent, de parvenir à des consensus. C'est comme ça que je vois la chose.
En fait,
dans les lectures que j'ai eues par rapport à ce sujet-là, ce qui favorise le rapprochement, c'est sans doute le changement de vision des élites, comme il a dit. Et si les élites...
Et peut-être du nouveau pouvoir en Éthiopie, incarné par le Premier ministre Abiy. Mais merci beaucoup. On va écouter
le message de nos auditeurs sur Internet, recueilli et livré à présent par Richard Thierry Mbouekidjina.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Mali, Diarra Kamnoun, inquiet, se demande si en raison de l'insécurité qui règne au nord du pays, la présidentielle pourra se dérouler dans les meilleures conditions. Et Mackenzie Seifa, le talentueux de son côté, aimerait lui connaître les mesures prises par le gouvernement afin de faire toute la lumière sur l'affaire des fosses communes découvertes dans les localités de Koubaka et de Nantaka. Pour notre fidèle internaute de Bamako, la question de l'indemnisation des proches des victimes devrait être soulevée. Au Cameroun, Charles Bazema estime que le gouvernement de Yaoundé a les yeux fermés sur la situation qui prévaut actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il exhorte le président Paul Biya à se rendre dans la zone de tension afin de conforter les populations. Ce qui serait, selon notre fidèle internaute de Ouagadougou, un geste symbolique de paix de la part du chef de l'État camerounais. Et sur le Réchauffement diplomatique entre l'Éthiopie et l'Érythrée, Mephis Kiti salue l'acte posé par les deux pays. Et selon lui, les premiers bénéficiaires de cette initiative sont les populations de ces deux nations frontalières de la Corne de l'Afrique. Merci à Pascal Yannick Onana et à Cher Tidiane Dembélé qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa. Bonne chance aux équipes africaines engagées en Coupe du monde de football du côté de la Russie. Et d'ici là, portez-vous bien.
Voilà, ben, merci Richard.
Un petit clin d'œil à la Coupe du monde, évidemment. Richard, Thierry, Yombo et Kijina, merci beaucoup. On va demander à notre grand témoin invité, le docteur Abdoulaye Sall, de nous faire part d'une conclusion générale à la fin de cette émission.
Bon, conclusion générale, c'est vous mettez en lien pratiquement le centre de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest, ce qui est extrêmement important. Et à partir de Paris aussi, on nous suit. Ça, c'est extrêmement important. Moi, je ne peux que vous remercier et que nous, les êtres humains, ce qui nous sépare des autres mammifères, c'est que Dieu nous a donné non seulement le langage, mais la faculté également de pouvoir réfléchir, de s'informer et d'agir et de pouvoir bien agir. Je pense que ceci est extrêmement important. Réfléchissons, informons et mettons-nous ensemble. Je pense que c'est comme ça que nous allons sauver notre continent, l'Afrique.
Merci beaucoup, docteur Abdoulaye Sall, président du Cercle de réflexion et d'information de la consolidation de la démocratie au Mali, le CRI 2002. Merci également à notre confrère Christophe Bobiokono, directeur de la publication de l'hebdomadaire Kalara, qui était avec nous au téléphone depuis Yaoundé. Et l'émission a été réalisée à Dakar par Papi MFI, régie technique assurée à Paris par Valentin Blanc, chargé de production Richard Thierry Umbwe Kijina. Liliane Yacha, évidemment, était à Dakar, mais je ne vous entends pas, Liliane. Je me sens un peu seule, là, tout d'un coup.
Ben non, Francis, je ne suis pas contente parce que j'ai attendu en vain vos félicitations après la victoire du Sénégal. Oui. Voilà, deux buts à un contre la Pologne, mais
ah, vrai,
elles
ne
sont pas venues, vos félicitations, mais bon, voilà.
Ben écoutez, on se prépare pour le match
de qualification dimanche prochain contre le Japon, rassurez-vous.
Ben voilà.
Ce sera la qualification pour les huitièmes de finale pour les Lions de la Teranga.
Et vous nous ferez un long commentaire la semaine prochaine, évidemment, sur cet événement majeur.
On pourrait y consacrer toute l'émission, hein, si vous voulez bien, Francis Laloupeau.
Il y a juste le temps de rappeler que vous pouvez, chers auditeurs et auditrices, réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, Liliane, pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bon week-end à toutes et à tous.
Et je serai ravie de vous retrouver ainsi que les auditeurs. Au revoir.
Au revoir.
Le débat Africa BBC.